est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info, on espère que vous allez tous et toutes bien. Vous nous manquez, quand on n'est pas là, c'est horrible. Alors, le mercredi, hier, il y avait un Canu Info, ils étaient dans le speed, et ben nous aussi, c'est tout pareil ce soir. Alors, il me semble, cher Laurent, qu'il y a un certain nombre de sujets dont on n'aura pas le temps de parler ce soir, hein, quand même. L'actualité a été très riche, il faut dire, ces derniers jours, ne serait-ce que ici, dans notre beau pays.
Oui, tout à fait, on parlera assez peu, et voire pas du tout, de cette Russie colonialiste qui continue ses magouilles en Ukraine, face aux capitalistes tout aussi colonialistes, mais beaucoup plus indécis, qu'ils viennent d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. On ne parlera pas non plus de Manuel Valls, qui est, à l'heure d'aujourd'hui, toujours Premier ministre, et qui est bizarrement toujours affilié au Parti Socialiste, mais qui continue sa politique économique de droite, qui continue son travail pour le MEDEF, et qui continue son soutien aux cathos réactionnaires et à son ami l'ex-pape Jean-Paul II, puisqu'on a découvert qu'il était amoureux, ou en tout cas très très fan, d'un catho intégriste comme l'était le Jean-Paul II. On parlera pas non plus d'Alain Finkielkraut, hein, qui continue de d'exprimer sa haine et son racisme sur une radio publique, et qui voit a priori des boucheries halal et des kebabs partout. Et on parlera pas d'Abdelaziz Bouteflika, qui paraît-il est vivant. En tout cas, on signale un mort vivant en fauteuil roulant vaguement ressemblant à Bouteflika, qui serait allé voter aujourd'hui pour Bouteflika, et qui, Monsieur Bouteflika, risque d'être réélu pseudo-président ou vrai dictateur de l'Algérie. On parlera pas non plus de Servier, le laboratoire qui a perdu son créateur, que quelqu'un très connu a qualifié d'empoisonneur, corrupteur et d'escroc.
Ouais, Irène Frachot, oui, effectivement, qui l'a combattu ardemment et qui, hier, sur BFM TV, a continué à rappeler que, malheureusement, les victimes auraient bien aimé qu'il soit jugé.
Enfin, les victimes vivantes.
Oui, mais que les familles, ouais, du coup, puissent aussi porter ces deuils jusqu'au bout. Voilà, c'était très bien qu'elle intervienne très rapidement hier, parce que c'est vrai qu'elle était assez énervée, et puis qu'elle a toujours eu la parole franche, Irène. Voilà. On parlera pas non plus du ferry en Corée du Sud. Vous aurez noté que on n'a jamais autant parlé de ce pays dans les médias français. Ça intéresse pourtant en général pas grand monde. Alors l'autre actualité sur la Corée du Sud dans les médias qu'on a pu voir passer, c'est l'histoire de cet homme qui a tellement joué aux jeux vidéo qu'il a laissé mourir son fils. Vous voyez deux types d'informations sur ce ferry. Alors on a tout entendu quand même dans les médias français, jusqu'à des bêtises hier soir sur iTélé, cette merveilleuse chaîne en continu, où on nous expliquait qu'un plongeur, un sauveteur, se dirigeait même vers les rescapés. C'est-à-dire qu'un sauveteur est allé aider des gens incroyables, incroyables. Voilà des commentaires des grands médias, et en particulier des télés, qui vont toujours chercher la mort. Et là, la mort, elle est largement mondialisée, et elle est un peu de partout.
Alors, on va commencer avec un petit bout d'actualité très courte sur Israël, Palestine et les pays autour. Avec les quelques nouvelles, puisque du coup, on a raté le Kenya Info la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose, quelques petits trucs comme ça. On en donne quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, vous imaginez bien. Allez, on revient sur vendredi 11 avril, donc la semaine dernière. Dans la soirée du vendredi, des colons israéliens ont agressé des jeunes de 20 ans et un jeune de 21 ans. Qui, eux, étaient arabes palestiniens, on va dire, puisque ça se passait dans la colonie de Pisgat Zev, c'est une partie de Jérusalem-Est hein, qui est colonisée illégalement par Israël et ses colons. Donc, en fait, les jeunes, ils sont descendus, ils sont passés en voiture, ils sont arrêtés, il y avait un guichet pour retirer de l'argent. Ils sont descendus et là, ils ont été encerclés par une trentaine de colons juifs qui les ont attraqués, qu'ils ont attaqués, matraqués, etc., jusqu'à que la police israélienne intervienne, disperse les colons et en arrête quand même trois. Donc ça, c'était vendredi. Toujours dans les attaques de colons, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est samedi dernier, on était le 12 avril, c'est dans la vieille ville Al-Khalil, donc Hébron, quatre enfants palestiniens, donc là, 10, 11, 11 et 13 ans, donc des futurs terroristes, on imagine, à cet âge-là, puisqu'ils ont été agressé par un groupe de soldats de l'armée israélienne à coups de crosse et de bottes, et ils ont ensuite été transportés à l'hôpital. C'est juste pour rappeler que en 2013, le décompte de l'ONU fait état quand même de presque 400 agressions de la part des colons israéliens sur des Palestiniens. Et puis l'info israélienne du jour, c'est ce journaliste israélien, mais qui a priori est arabe israélien, ce qui est quand même assez mal vu par les services de sécurité israéliens. Il a eu le malheur de se rendre au Liban. Alors on vous rappelle que le Liban est un pays ennemi pour Israël. Les Israéliens n'ont pas le droit de s'y rendre, puisque officiellement ils sont toujours en guerre. Alors comment il a fait cet Israélien pour s'y rendre? Il est passé par l'autorité palestinienne. Du coup, il a demandé une autorisation, il est passé par la Jordanie. Il est allé donc au Liban intervenir dans un média, puisqu'il est journaliste, un quotidien libanais qui s'appelle Al-As-Safir. Et le Shin Bet, les services de sécurité intérieure israéliens, l'ont arrêté parce qu'ils estiment qu'il a pris contact avec des gens du Hezbollah. Et que c'est mal. Et donc la presse libre en Israël, ça a des limites. Et notamment d'aller voir ce qui se passe au Liban, c'est une limite. Alors l'info, il a été arrêté il y a un petit moment, mais l'info est sortie qu'aujourd'hui parce que jusqu'à maintenant, ils étaient arrivés à bloquer complètement l'information. Voilà. Alors la mère du journaliste est intervenue. Elle expliquait que son fils il travaillait pour ce journal, entre autres As-Safir, et que c'est logique donc qu'il aille là-bas, et que d'ailleurs sa famille à elle et elle ne considérait pas le Liban comme un pays ennemi. Et elle a dit de toute façon c'est pénible avec Israël. On peut pas aller dans certains de nos voisins arabes. Effectivement, Israël n'a pas de très bon contact avec tous les voisins qui l'entourent. Sauf avec, par exemple, la Jordanie, puisque là, c'est possible. Il y a une association qui s'appelle Adala, qui emploie d'ailleurs, ce journaliste aussi, de temps en temps, qui est une association de défense des droits civiques des Arabes israéliens, qui a dit qu'il y avait quand même une énorme censure autour de l'information, et aussi autour de ce journaliste qui a été arrêté et dont on a attendu un certain temps avant de savoir qu'il avait été arrêté et pas enlevé par une organisation terroriste. En même temps, le Shin Bet, peut-être que ils ont le même type de comportement que une association terroriste. A priori, c'est le cas puisque personne n'était au courant de cet enlèvement qui s'est transformé en arrestation le jour où ils ont révélé avoir arrêté ce journaliste. Donc voilà, donc le Shin Bet a affirmé que ils allaient décider dans les jours à venir de la suite de l'enquête et des charges qui pourraient être portées contre le suspect.
Alors une autre histoire de journaliste, on part à Cuba. grand pays, hein, pour le journalisme, bien évidemment, pour la liberté d'expression et d'information. Alors, je vous rappelle que Cuba est 170e sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Beau classement, hein,
ouais,
quand même.
Pas 100, mal.
170e. Alors, c'est l'histoire de Juliette Michelena Diaz. Vous m'excuserez pour la non-prononciation de la rota espagnole. Elle a été arrêtée le 7 avril dernier. Alors, d'abord, elle a été accusée de menaces contre une voisine. Et puis, au cours de la semaine, l'accusation s'est transformée en terrorisme. Donc, cette journaliste indépendante qui travaille pour le réseau cubain de communication communautaire, le Red Cubana de Comunicadores Comunicatorios, qui est un collectif de défense de la liberté de l'information. Alors, en général, eux, ils ont beaucoup de soucis, hein, je vous le dis tout de suite. Là, elle prend quand même une accusation de terrorisme. Elle est toujours incarcérée. Alors, il faut savoir que son arrestation est survenue 3 jours avant la publication d'un de ses articles. Dans cet article, elle raconte les violences policières ordinaires dont elle a été témoin à La Havane. Alors, évidemment, ça a été une forme de pression. C'est un article qui a été publié sur la plateforme d'information en ligne, hein, sur Internet, qui est installée à Miami, qui s'appelle Cubanet. Donc, c'est une plateforme assez connue. Où un certain nombre justement de journalistes indépendants viennent s'exprimer. Alors c'est une pression de plus, hein, ils essayent de faire de la censure. Elle avait déjà été arrêtée en mars dernier, là elle avait été relâchée assez rapidement. Elle est évidemment pas la seule, hein, dans les journalistes, tout ce que après on appelle les blogueurs d'opposition. Globalement je parle même pas, hein, des opposants et des militants, hein, politiques. Là on parle vraiment de ceux qui écrivent, des journalistes ou qui racontent. Alors on pourrait parler par exemple de Dania Virgen Garcias. Alors elle a été agressée en pleine rue par les flics, ils lui sont tombés dessus, ils l'ont matraquée, hein, comme ça, ça s'était fait, même pas besoin d'avoir quelque chose de légal derrière. On pourrait raconter Yoani de Jesus Guerra Garcia, qui lui est en prison depuis octobre 2013. Il a pris 7 ans, hein, un journaliste aussi. Donc voilà, c'est un exemple dans le monde parmi tant d'autres. C'est vrai qu'à Cuba, la situation est difficile, mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu prendre ce soir dans ce Canu Info.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Alors c'est notre rubrique sur les barbares qui pratiquent encore la peine de mort. On va commencer par l'Iran et une bonne nouvelle, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des bonnes nouvelles, notamment en Iran.
Non mais on l'a fait déjà, il n'y a pas très longtemps, le coup
ouais,
de
la bonne nouvelle
sur le Japon avec les barbares, et malheureusement...
Et ça a changé, mais là, si, a priori, c'est une vraie bonne nouvelle du coup. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Balal, qui est âgé de 19 ans en 2007, il se bat avec quelqu'un et au bout d'un moment il sort un couteau et voilà, il y a un coup à la gorge de son du gars avec qui il s'embrouille et le gars il meurt. Donc il est condamné à mort et mardi matin, donc le 15 avril, il devait être pendu en public à Nochar. Donc il arrive, ils lui mettent la corde au cou et la mère de la victime arrive et en public elle accorde le pardon à Balal. Alors c'est prévu par la loi iranienne, hein, c'est un truc tiré de la charia et donc issu d'un texte religieux musulman, comme quoi un condamné à mort pour meurtre peut échapper à l'exécution et purger sa peine s'il est pardonné par la famille qui reçoit alors ce qu'ils appellent le prix du sang. Alors là, le prix du sang est déterminé à 50 000 $ à peu près en Iran, et c'est ce qu'a fait la mère. Donc elle s'est approchée. Elle s'adressait à la foule d'abord en expliquant que c'était difficile d'avoir aujourd'hui une maison vide parce qu'elle a perdu ses 2 enfants. Alors le Balal, il en a tué qu'un, l'autre est mort dans un accident de la route. Mais voilà, elle expliquait qu'elle avait du mal à vivre. Elle s'est approchée, elle a demandé pardon. Lui, il a demandé pardon, je veux dire. Elle l'a giflé, elle a expliqué, voilà, ça m'a calmé. Et ensuite, elle a dit, je te punis pour le malheur que tu m'as fait. Et elle a enlevé la corde et du coup il a échappé à la peine de mort. Alors c'est une très mauvaise raison pour échapper à la peine de mort, une raison religieuse, puisque c'est aussi une raison religieuse merdique qui pousse à l'application de la peine de mort, mais on signera quand même que ça fait toujours quelqu'un de vivant en plus. L'Iran, depuis le début de l'année, donc c'est 170 personnes qui ont été exécutées, en général en public. Alors, il faut dire que pour ce jeune garçon, il y a la mère a agi, mais elle a pas fait ça de manière totalement isolée. Il y a eu une grosse campagne, et c'est pas la première fois qu'en Iran qu'il y a des grosses campagnes pour sauver des condamnés à mort de cette potence, hein, où ils sont pendus. Notamment des artistes et aussi le milieu du football professionnel, parce que le mari était ancien footballeur professionnel, le mari de la dame. Se sont mobilisés pour qu'il ne soit pas exécuté. Donc voilà, c'est pas courant, donc c'est assez rare donc pour signaler.
Alors on va partir aux États-Unis d'Amérique. Alors le Texas continue puisque le Texas a exécuté Ramiro Hernandez Llanas, c'est un ressortissant mexicain. Alors ils ont fait cette exécution en totale violation de l'application de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Alors, si vous l'avez oublié, en 2004, la Cour internationale de justice a reconnu dans un arrêt Avena et autres ressortissants mexicains la violation des droits de 51 Mexicains dans le couloir de la mort des États-Unis d'Amérique parce qu'ils n'avaient pas été informés de leurs droits à une assistance consulaire prévue à l'article 36 de la Convention de Vienne. Alors, les États-Unis d'Amérique devaient réexaminer les verdicts. Les verdicts devaient d'ailleurs être révisés. Enfin, tout devait être revu et évidemment rien n'a été fait puisque les États-Unis d'Amérique s'en balancent. Donc le Texas continue d'exécuter. Alors c'est le quatrième citoyen mexicain assassiné aux États-Unis d'Amérique en toute violation du droit international. Voilà, sans souci, il continue et il y en avait 51 hein, quand même dans cet arrêt. Bon courage aux 47 autres.
Voilà, alors on va parler du facho du jour. Il faut toujours en choisir un pour le mettre sous le feu de l'actualité. Aujourd'hui, c'est alors on en a beaucoup parlé la semaine dernière, le week-end dernier, puisque je vais revenir sur Frazier Glenn Cross, donc qui a tué trois personnes dimanche dernier dans la communauté juive de Overland Park. C'est dans la banlieue de Kansas City. Donc c'est à la veille de la Pâque juive, de la Pessa. Donc il n'a pas fait ça gratuitement, bien évidemment, hein, puisqu'il a été très grand chef du Ku Klux Klan, néo-paganiste aujourd'hui, adorateur du dieu Odin, et qui a a priori le cuit d'une poule. Et jusqu'au bout, hein, quand il a été arrêté, il a crié « Heil Hitler ». Ça donne un petit peu le niveau. Donc finalement, ça se termine pas trop mal, parce que quand il est arrivé le dimanche à 13h, il y avait 75 personnes et il en a tué finalement que 3, alors que potentiellement il avait 75 personnes qui pouvaient assassiner sans problème. Donc du coup, le bilan est beaucoup moins grave que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est un vrai acte raciste, hein, puisqu'il est membre du Ku Klux Klan et qu'il a dit qu'il voulait exterminer tous les juifs. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'il a dit et ce qui continue d'exister aux États-Unis, notamment qu'il appartenait récemment au Vanguard News Network, un réseau néo-nazi d'information sur Internet, où il soutient l'extermination des juifs et que ça continue de pouvoir exister sans problème aux États-Unis. Alors, il y a un petit côté drôle dans tout ça. Je veux dire, comment je fais pour trouver un truc drôle? Parce que quand il s'exprime et qu'il parle de l'odinisme, alors Odin, dieu scandinave, qu'on retrouve dans les militants d'extrême droite un petit peu, notamment en Europe et notamment dans les scènes de musique métal, de black metal notamment d'extrême droite. Donc lui, il explique, c'est la religion des gens forts et héroïques du peuple allemand dont nous sommes tous les descendants. Alors, moi, je ne sais pas comment il fait pour être descendant des peuples allemands, peut-être qu'il a une origine allemande, lui, mais je ne suis pas sûr que tous les gens de la Terre descendent du peuple allemand, je ne sais pas d'où il sort ça. Après, il explique que, alors, il parle pour que, il espère que les 100 millions d'Ariens chrétiens se convertissent à cette religion du dieu Odin, inventée par leur propre race, qui fut pratiquée bien des générations avant que les juifs inventent le christianisme. Mais, Alors, quand on a ce genre de propos, on se dit mais comment les gens peuvent le suivre? C'est tellement débile, tellement bon, on n'imagine pas. Et pourtant, il a des adeptes. Il y a plein de gens. Il a publié plein de messages. Alors, le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce dimanche 13 avril, quand il va tuer ces gens dans cette communauté juive, tout le monde le connaît, ce gars. On a retrouvé des articles datant du début des années 80 où il est interviewé. Et où il dit exactement la même chose, qu'il faut tuer tous les juifs, donc il assume déjà être membre du Ku Klux Klan. On se dit, mais attendez, ils font quoi aux États-Unis? Ils laissent les petits fachos aller tuer le premier juif qui croise dans la rue alors qu'ils les connaissent depuis 30 ou 40 ans? Bah oui. Voilà, c'est le côté quand même inquiétant. C'est un régime qui est capable d'espionner tout le monde. Notamment, il y a eu une affaire où ils espionnent pas mal les musulmans et que la police a dit qu'ils allaient peut-être faire attention. Mais par contre, les petits fachos blancs, ben a priori, ils les gênent beaucoup moins. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qui explique tout ça. En tout cas, on notera que le maire de sa ville, sa petite ville, l'a soutenu, a dit que lui aussi détestait les juifs, mais qu'il était contre la violence. Finalement, ça ne nous rassure pas qu'il soit contre la violence. Par contre, ça nous inquiète qu'il y ait des maires de petites villes comme ça, c'est la nuit, qui osent dire ce genre de propos. Voilà, c'est pour rappeler que les fachos sont parmi nous. Alors là, c'est un exemple avec les États-Unis d'Amérique. Mais voilà, vous en avez aussi au coin de votre rue. Donc attention, ne les laissons pas s'exprimer. Et puis voilà, bon, a priori, les flics aux États-Unis emmerde d'autres personnes. Le petit noir dans la rue doit être beaucoup plus emmerdé, a priori, que le grand vieux blanc membre du Ku Klux Klan.
Je pense même que le grand noir.
Oui, non mais c'est une image pour être dans l'excès. Voilà.
Eh ben, on est aux États-Unis avec la SNCF. Je vous avais raconté il y a quelque temps que la SNCF essayait de s'installer, de faire du commerce aux États-Unis d'Amérique et que c'était pas simple. C'était pas simple puisque des élus du Sénat du Maryland avaient souhaité que la SNCF indemnise les victimes qu'elle a transportées dans ses petits wagons pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est vrai.
Voilà. Alors, il disait, si vous indemnisez les victimes, ok, vous pourrez participer au marché public et donc vous installer sur les territoires. Alors, finalement, ces textes, ces propositions de loi n'ont pas été soumis au vote de la Chambre du Sénat du Maryland. Pour cette session 2014, la SNCF va donc pouvoir postuler au marché public, parce qu'il faut dire qu'elle en vise un en particulier avec sa filiale. Elle vise l'exploitation d'un projet de transport public-privé de près de 3 milliards de dollars, hein, quand même, c'est une belle somme. Alors, elle n'est pas seule, hein, puisqu'elle est au sein d'un consortium qui comprend Alstom et Vinci, qui eux aussi, hein, évidemment, sont des multinationales et s'installent un petit peu de partout. Alors, ce qui est intéressant quand même par rapport finalement à cette décision, c'est qu'on pourrait rappeler qu'en mars, lors des auditions parlementaires, avec la présence des familles, des anciens déportés, la SNCF avait eu cette façon de faire en disant qu'elle avait été qu'un rouage d'une machine d'extermination nazie, simplement.
C'est toujours facile de se dédouaner comme ça.
Oui, alors voilà, ça c'était quand même quelque chose qui avait beaucoup marqué les esprits aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y avait eu aussi un peu cette colère. Et puis la SNCF avait aussi expliqué que que l'indemnisation relève de l'État français. Il faut savoir que l'État français est en négociation actuellement avec les États-Unis d'Amérique, justement pour indemniser les victimes transportées par la SNCF. Mais parallèlement à ça, il y avait des collectifs d'anciens déportés qui estimaient que si c'était de loi dans le Maryland avait été voté, ils auraient compliqué les discussions justement en cours entre les deux États et qu'une affaire économique au milieu, ça n'allait peut-être pas le coup. Et puis il y avait aussi des gens, je vous l'avais dit, hein, qui évidemment pensaient que c'était du protectionnisme, mais qui pensaient qu'en mettant en place ce protectionnisme, en empêchant la SNCF par exemple de rentrer sur ce marché, ben, en fait il permettait aux autres concurrents de lever les prix, hein, donc ça faussait la concurrence et que c'était pas bon pour les finances publiques. Bon, toujours est-il que du coup les multinationales françaises sont très contentes, elles vont pouvoir tenter de gagner ce marché qui évidemment, comme je vous le disais, est énorme et essayer d'en attraper d'autres par la suite. suite.
Voilà, puis que la SNCF règle ses problèmes avec son histoire. Elle s'est toujours bien reposée sur les cheminots qui ont, en proportion, beaucoup résisté, beaucoup par rapport à l'ensemble de la population française, parce que c'est pas beaucoup en nombre en fait. Mais et donc du coup, elle s'est toujours dédouanée, la SNCF. Moi, j'ai toujours trouvé en disant ouais, mais regardez, il y a eu plein de cheminots résistants. Ouais, sauf que elle a quand même conduit les Juifs à la mort.
Ouais, c'est pas nous, c'est les autres. Alors on va partir maintenant en Chine, vous savez où il y a plein d'usines textiles qui fabriquent vos petits t-shirts, hein ? Vous aimez pas bien que je vous rappelle que vos petits t-shirts ils sont faits en Chine ?
Pas qu'en Chine, aussi on a vu hein, quand les usines s'écroulent, c'était pas toujours en Chine.
Non. Mais là, c'est en Chine qu'il y a une grève encore. Alors, ça se passe dans le Guangdong, hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'usine du monde, hein, puisque c'est là où sont fabriqués les t-shirts, mais pas que, il y a aussi les chaussures de sport, et c'est près de 30 000 à 40 000 salariés d'un fabricant de chaussures de sport qui s'appelle le fabricant Yu Yen, qui sont en grève depuis la semaine dernière. Alors, eux, évidemment, ils sont en train de pointer leurs conditions salariales, assez récurrent en Chine. Le fait que des fois, ils n'aient pas de contrat d'embauche et qu'ils soient mal faits, là aussi, assez récurrent en Chine avec le patronat. Et puis qu'ils ont des petits problèmes avec leur couverture sociale, là aussi, assez habituel. Et qu'en plus, l'entreprise, elle leur doit des sous. Donc, ces 30 000 à 40 000 grévistes sont pas prêts de lâcher, d'autant plus que ça se passe pas très bien en face. Alors, ils sont nombreux, mais on leur a envoyé les forces de l'ordre. Alors, c'est l'organisation China Labor Watch qui a diffusé une série de photos sur lesquelles on voit des centaines de flics autour de l'usine, hein, avec évidemment tout le matériel Robocop qu'il faut bien pour faire mal. Et puis surtout, on voit sur ces photos, moi c'est toujours le truc qui me fait peur, c'est les flics qui tiennent les bergers allemands. Quand ils les lâchent, voilà, ça rappelle des choses assez horribles. L'organisation a aussi récolté toutes les informations sur la répression, puisque plusieurs ouvriers se sont fait matraquer. Donc voilà, une grève qui n'est pas la seule. Là, il y a Reuters qui a fait des petits calculs, et c'est exponentiel, hein, les grèves en Chine, il y en a tout le temps. Et alors là, vous voyez, c'est pas la petite grève hein, avec 300 ouvriers dans l'Ain qui se battent et qu'on arrive quand même à médiatiser. C'est 30 000 à 40 000 grévistes, c'est un truc absolument énorme. Hein. La Chine, c'est démesuré. Voilà, mais du coup, les répressions, elles le sont aussi. Donc voilà, on leur souhaite bien du courage. Je préciserai juste qu'évidemment, ils produisent des chaussures de sport pour les marques comme Nike, Adidas et toutes les autres. Voilà, vous regarderez ce que vous avez au pied aujourd'hui. J'espère que vous penserez à eux et à elles. Merci.
Alors, on poursuit avec la rubrique Ni Dieu ni Maître. On va parler un petit peu des religions qui assouvissent les êtres humains sur cette belle planète. On va commencer par l'Union des Églises Protestantes d'Alsace-Lorraine. Donc, on va appeler ça l'UEPAL. Parce qu'on va citer le nom souvent, donc vous retenez. UEPAL, ça veut dire Union des Églises Protestantes d'Alsace-Lorraine. Qu'est-ce qui se passe en Alsace-Lorraine avec les Églises Protestantes? Eh bien, ils sont en phase de discussion, de débattre sur le mariage homosexuels. Et oui, eux aussi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu notamment 150 pasteurs et laïcs alsaciens qui sont partisans d'une bénédiction des unions homosexuelles, qui ont publié début février un manifeste, je cite, qui s'appelle « Pour un débat ouvert, serein et respectueux ». Donc les initiateurs de cet appel regrettent que cette question de société suscite des réactions parfois viscérales dans leur communauté religieuse protestante. Donc ils voudraient que la discussion soit un petit peu apaisée. Alors pourquoi ils lancent ça maintenant? Eh bien, depuis le 4 février, l'UEPAL a ouvert un grand débat participatif, juste à la veille d'ailleurs de l'élection du président de l'institution d'Alsace-Lorraine, qui a eu lieu le mardi 18 février. Un grand débat qui va durer tout le mois d'avril, et dont les conclusions seront données lors de l'Assemblée les 28 et 29 juin 2014. Et là, l'Union des Églises Protestantes d'Alsace-Lorraine doit décider si ces pasteurs pourront, à l'avenir, bénir des mariages civils de couples de même sexe. Alors, ça nous paraît bizarre quand on connaît pas bien les communautés protestantes de cette région, parce qu'effectivement, ça fonctionne démocratiquement. On est plus habitué à l'Église catholique qui est un truc totalitaire. Là, a priori, c'est plus démocratique, en tout cas de l'extérieur. En intérieur, je ne connais pas. Donc, ils discutent de ça. Ils rappellent d'ailleurs que leur position a évolué. Pour l'instant, ils sont sur la position des églises luthéro-réformées françaises qui a été prise le 1er février 2004. C'est juste pour faire le point sur leur position sur les homosexuels au sein de leur communauté religieuse. Donc, ils encouragent l'accueil inconditionnel des personnes homosexuelles au sein des églises. Mais jusqu'à maintenant, ils s'opposaient à ce que ces homosexuels accèdent aux fonctions de pasteurs. Bon. C'est en train de changer, il y a maintenant déjà en France des pasteurs homosexuels. Du coup, ils se posent ces questions et ils réfléchissent, ils prennent la décision jusqu'au le 28 et le 29 juin. Vous allez me dire, waouh, ouais, putain, il fait l'apologie d'une religion, ils sont super progressistes. Alors oui et non, ils ont l'air progressistes comme ça, mais au sein de leur communauté, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et c'est le cas, parce que du coup, là, j'ai donné un peu l'avis de ceux qui sont un peu ouverts et qui préfèrent avoir un croyant homo que pas de croyant du tout. Hein, c'est un peu ça la position du coup. Il y a de l'autre côté ceux qui sont super homophobes. C'est le cas notamment du pasteur Bernard Leblé, qui vient de Wolfisheim, dans le Bas-Rhin. Donc je m'excuse pour la prononciation, mais je maîtrise assez peu l'alsacien. Donc lui, il a redonné son avis. Il a d'ailleurs appelé ses partisans à lutter contre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'intégration des homosexuels au sein de la communauté protestante d'Alsace-Lorraine. Il a rappelé sa position, d'après lui, d'après l'analyse qu'il a faite des psychanalystes Freud et Jung, l'Église ne doit pas reconnaître l'homosexualité et les homosexuels comme des gens normaux. Il dit, c'est une maladie psychique caractérisée par la non-acceptation de soi et que c'est un péché, contrairement aux enseignements de la Bible. Ouf, ça nous rassure, on avait cru d'un seul coup que des croyants pouvaient être progressistes. Ben non, pas du tout. Donc a priori, il n'est pas minoritaire non plus. On le saura fin juin si cette église est un peu progressiste ou pas du tout. Donc voilà les débats au sein de l'église protestante d'Alsace-Lorraine. Alors toujours dans cette rubrique sur la religion, une nouvelle question se pose en Arabie Saoudite. Alors c'est pas la première fois, mais ils se posent la question d'introduire des cours d'éducation physique, de PS comme on dit chez nous, ou de gym si vous voulez, pour les filles dans les écoles publiques. Alors ça discute beaucoup, notamment il y a le conseil de la Choura qui est un organisme représentatif qui a voté le 8 avril dernier une résolution recommandant au ministère de l'éducation de se pencher sur la question des cours de sport pour les filles qui pour l'instant en sont dispensées. Alors, quand ils ont dit ça, ça a fait réagir pas mal d'imams en Arabie Saoudite qui disent qu'eux ils sont totalement contre, ils disent c'est de l'occidentalisation, et alors moi j'adore les arguments des religieux, de toute religion qu'ils soient, parce que ça va très très loin. Je cite le communiqué de ce groupe d'imams qui dit « Si nous restons silencieux vis-à-vis de cette mesure qui consiste à ajouter l'éducation physique dans les écoles de filles, cela revient à donner un feu vert au conseil de la Choura pour continuer l'occidentalisation progressive, et cela va déboucher sur l'infidélité et la prostitution. » Alors personnellement, j'avais jamais imaginé que faire du sport à l'école, ça entraînait, ça avait un lien avec l'infidélité et la prostitution. Mais a priori, cet imam, alors là c'est la phrase de l'imam, le porte-parole d'un de ces imams qui s'appelle Abdullah Al-Daoud. Bon, voilà, c'est vous rappeler qu'ils sont pas du tout progressistes, bien évidemment. Et alors, ce même Al-Daoud, il s'était déjà fait connaître, hein, parce que il est sur Twitter, hein, comme des gens, comme ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il envoie des hashtags avec des mots. Alors, il incitait à harceler sexuellement les caissières, par exemple. Alors, pourquoi? Parce qu'il est contre le travail des femmes. Ah, donc du coup, harceler sexuellement les caissières, eh ben c'est pour leur faire peur et pour qu'elles arrêtent de travailler. Alors de même, il avait incité les hommes à agresser sexuellement les femmes employées dans le secteur des services, afin toujours de décourager les femmes de travailler. Pas mal, hein. Moi je dis, l'Arabie Saoudite, c'est quand même pas loin du top du top. Et on va terminer cette rubrique sur les religions avec l'Iran. L'Iran qui a des problèmes avec la vasectomie. La vasectomie, c'est quoi? C'est quand on... N'empêche, on stérilise définitivement un homme. Alors, il n'y a pas de campagne de vasectomie généralisée en Iran, mais c'est une méthode de contraception qui est utilisée quelques fois. Et le Parlement étudie un projet qui a été lancé par des conservateurs iraniens, donc ça date d'il y a trois jours, sur la limite de la contraception et de l'avortement, parce qu'ils estiment que le pays est en train de devenir vieux et qu'il faut relancer la natalité, et que pour relancer la natalité, il faut limiter toutes les formes de contraception. Alors la vasectomie, ils ont mis ça en avant, mais il y a aussi toutes les autres formes, et notamment l'avortement. Ça a été soutenu par l'ayatollah Ali Khamenei l'année dernière, hein, qui avait déjà critiqué la politique de contrôle des naissances du gouvernement, qu'il estimait trop occidentale. Voilà. Bon, comment ils avaient mis ça en place, ils avaient diminué les budgets des plannings familiales en Iran. Donc voilà, là ils vont essayer de lutter encore plus contre la contraception. Ça rappelle un petit peu la lutte que l'Église catholique française fait contre la contraception, parce qu'il paraît que c'est mal.
Alors on part en Espagne, à Madrid. On vous avait parlé de la justice universelle il n'y a pas très longtemps. On vous avait expliqué que les députés espagnols avaient voté en février une loi qui restreint le principe de justice universelle. On vous rappelait que c'est un principe qui a permis aux juges espagnols d'enquêter sur des faits commis à l'étranger.
Notamment Pinochet, je crois bien que c'était ça.
Ouais, il y a eu. Enfin, c'est quand même un principe fort en Espagne, qui donc a été remis en question largement pour des pressions diplomatiques, puisque ça plaît pas bien à la Chine, en Israël par exemple, c'est les pays qui aiment pas bien.
Et puis en Espagne, ils ont quand même la droite dure au pouvoir.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, tu fais bien de le dire en plus de cette manière. Alors c'est le juge Pablo Ruz qui mardi a annoncé qu'il poursuivra l'instruction de trois enquêtes malgré les nouvelles limitations de la justice universelle. Alors la première des enquêtes, elle a été ouverte en 2009, elle porte sur des accusations de torture sur quatre détenus de la prison de Guantanamo entre 2002 et 2005. Donc là, le juge Pablo Ruz, il veut bien reconnaître que il va pas bien pouvoir faire grand chose avec les nouvelles limitations sur la justice universelle. Par contre, il continue à s'intéresser à deux autres affaires qui concernent le Sahara occidental. Alors, la première affaire a débuté en 2007. Elle porte sur le génocide commis par les autorités marocaines au Sahara occidental entre 76 et 87. Et le deuxième dossier est une plainte pour génocide aussi, qui vise le Front Polisario. Alors, le juge Pablo Ruz, pour ces deux dossiers, il argumente un certain nombre de choses et le fait que le territoire peut être considéré espagnol, hein, puisqu'il l'a été au moment où les faits ont été commis. Donc il va s'appuyer là-dessus pour essayer de continuer à porter ces dossiers. Voilà, il lâche pas l'affaire, hein, c'est bien. Parce que il est soutenu aussi par un certain nombre de mouvements de gauche, il faut le dire, et puis par un certain nombre d'autres de magistrats qui quand même contestent la limitation de cette justice universelle.
Alors on va passer maintenant à l'actualité française. On a fait beaucoup sur l'international. Un petit mot sur la nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme contre la France pour non-respect du droit à la vie. Alors c'est pas du tout lié, sur le droit à la vie, on a l'image de ces 14 intégristes qui sont contre l'environnement. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'un policier français a tué un détenu, quelqu'un en garde à vue plutôt. Un homme de 27 ans en 2008 il fallait pas le tuer, quoi. Grosso modo, la peine de mort, on rappelle, est pas appliquée en France et encore moins par la police. Donc voilà, faut rappeler quand même les faits. C'est Joseph, il s'appelait la personne, membre de la communauté des gens du voyage, hein, ce qui peut-être explique le comportement peut-être raciste ou pas du flic, on n'en sait pas plus du coup, mais on a quand même des doutes. Donc qui a été interpellé pour un vol à main armée. Et du coup, il essaie de s'enfuir un moment de la garde à vue, et donc il saute par la fenêtre. Donc il était encore entravé, c'est-à-dire qu'il avait les menottes, tout ça. Le flic, donc le gendarme très exactement, lui a tiré dessus à 7 reprises et l'a touché 3 fois et l'a tué. Et effectivement, la Cour européenne dit que a priori, il était pas dangereux, donc il y avait pas de menace, il risquait pas d'aller bien loin non plus puisqu'il était entravé, il suffisait grosso modo de lui courir après et de l'arrêter et c'était réglé, qu'il ne méritait pas la peine de mort. Hein, grosso modo, sur le jugement de ce gendarme. Donc la France est à nouveau condamnée, c'est pas la première fois, et peut-être que malheureusement ça ne sera pas les dernières. En tout cas, la Cour européenne a accordé 92 500 euros aux membres de la famille de la victime. C'est pas beaucoup, ça vaut pas cher la vie humaine finalement, 92 000 euros. Donc voilà, en tout cas ça condamne la France pour ce meurtre. Et puis, puisqu'on est dans les prisons, restons dans les prisons, nouveau record. Donc on félicitera Madame Taubira, hein, qui avec tous ses grands discours sur les peines alternatives, bah c'est du discours de façade, hein. Alors des fois on dit du bien d'elle parce qu'elle se prend tous les fachos en pleine gueule, mais quand elle fait comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a une politique de droite sur la prison, bah on va lui rentrer dedans aussi, hein, parce que 68 859 personnes incarcérées, nouveau record au 1er avril, c'est pas glorieux, les solutions alternatives sont toujours quasiment pas mises en place, donc voilà. Bienvenue dans un monde où les gens pourrissent en prison. On rappelle que Radio Canut se mobilise avec plein d'autres pour ce nouveau concert qui aura lieu à Saint-Étienne, qui sera diffusé sur nos ondes, qui s'appelle Du son contre la prison. Et donc ça sera le vendredi 9 mai à partir de 21h. Le concert donc Du son contre la prison sera diffusé sur la plus rebelle des radios.
Et puis, vous savez, des fois, nos politiques, ils ont des grandes idées. Et donc, ils mettent en place des nouvelles lois pour rendre des choses obligatoires. C'est le cas de ce fameux éthylotest que les automobilistes devaient donc posséder. Je dis donc « devait », puisque si vous avez tout suivi, si vous êtes automobiliste, il y a donc eu une loi en juillet 2012 qui rend obligatoire la possession d'un éthylotest pour les automobilistes. Évidemment, quand ils sont dans leur voiture, pas quand ils sont juste à côté debout. Et puis, si vous vous souvenez bien, il y a eu des petits problèmes d'approvisionnement.
Des magouilles de... pas de corruption, mais en tout cas, il y a eu du copinage quelque part.
Bon. Du coup, là, d'un seul coup, il y a des gens aussi qui n'arrivaient plus à trouver des éthylotests. Alors, première action à ce moment-là, nos politiques en place décident de reporter au 1er mars 2013 l'application des sanctions. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas votre éthylotest, vous aviez le droit de dire « Ah, mais j'en ai pas trouvé !» Et là, normalement, on vous laissait donc partir. Et puis, ben, finalement, d'un coup, d'un seul, un décret a supprimé l'obligation, enfin, la sanction. Ce qui veut dire que
l'obligation, il y a une obligation, mais il n'y a pas de sanction.
Elle n'est plus obligatoire, puisqu'il n'y a plus de sanction. Alors, dans cette affaire, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui, évidemment, s'étaient ruées sur les marchés, et puis que, à l'époque, l'État français avait fait quand même un grand appel. Hein, il faut venir, les amis, il y a du pognon à se faire, il y a tout plein d'éthylotests, et il y a une entreprise, Biwak Group, qui est détenue par des fonds taïwanais, si je ne me trompe pas, c'est exactement ça, qui s'est mis à produire tout plein d'éthylotests. À cette période, ils en ont produit d'ailleurs 12 millions, hein, un sacré paquet. Alors ils sont pas trop contents parce qu'aujourd'hui dans les placards, il y en a plus de 5 millions, il y a pour plus de 5 millions d'euros d'éthylotests qui restent. Il y en a plein, ils arrivent pas à les écouler, alors ils attaquent l'État français. Citoyens, citoyennes, français, françaises, votre État a une nouvelle plainte au dos, et oui, j'ai pas dit au derrière, hein, vous avez vu. Biwak Group a décidé donc de porter plainte contre l'État français pour avoir modifié la législation sur la possession obligatoire d'éthylotests dans les véhicules français. Ils estiment qu'il y a un préjudice, que l'État doit le réparer. Alors, ils expliquent qu'ils ont des difficultés financières. Il faut dire qu'ils sont endettés à hauteur de 2 millions d'euros, puisque forcément, ils ont beaucoup investi, hein, pour aller très très vite et pour avoir une production qui arrive rapidement. Ils ont des petits soucis aussi, ils expliquent, puisqu'ils ont eu des petites ruptures de contrat avec les fournisseurs, donc ça se passe pas bien, en plus ils peuvent pas les payer, et puis, évidemment, ils mettent aussi en avant le licenciement d'environ 400 personnes, hein, quand même c'est pas rien.
Un petit chantage à l'emploi, ça marche toujours.
Enfin, après, quand même temps t'es licencié, des fois tu te dis que ça te concerne, t'en es presque plus là, parce que ça a quand même touché des gens, mais voilà, évidemment, il y a un emballement du capitalisme dans ces cas-là, ils sont tous rués sur l'affaire. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réaction, hein, de l'État français.
Cette entreprise, elle devrait comprendre que aussi en démocratie, c'est le Parlement qui décide, et en démocratie représentative, telle que c'est le cas en France. Et du coup, le Parlement a changé, voilà, et ça pose pas de soucis non plus. À moins qu'ils aient signé un contrat avec l'État, ce qui a priori n'était pas le cas. Donc s'ils n'ont pas signé de contrat avec l'État, après... s'ils ont signé un contrat, effectivement, il y a la force du contrat, loi.
Alors je me suis embrouillé. Alors il y a 5 millions d'invendus qui leur restent, c'était bien ça que je voulais vous dire au début. Et alors donc, ils réclament évidemment du pognon, et ils réclament combien? C'est là où je m'étais embrouillé. Ils réclament plus de 5 millions d'euros.
Ah bah allez-y, voilà. Les gars.
Pour tout ça, on verra. Hein, du coup, pas de réaction, si j'en ai. Mais écoutez, je vous les ferai suivre, hein, citoyens, citoyennes.
Reparlons de cette vente aux enchères.
Oui, juste pour vous dire que lundi, cette fameuse vente aux enchères d'objets nazis a été finalement annulée. C'est le Conseil des ventes volontaires qui lundi a pris cette décision. Les objets sont retirés. C'était la maison Vermeaux de Passe qui proposait donc une quarantaine d'objets provenant de la résidence de Hitler. Alors Aurélie Filippetti lundi était montée au créneau, comme on dit, pour faire annuler cette vente. Donc évidemment, elle se félicite de cette décision. A priori, le Conseil des ventes volontaires aurait pris la décision tout seul, ce qu'ils ont eu sur le dos un certain nombre d'associations, mais dont d'autres font remarquer qu'il n'y a pas si longtemps, il y en a d'autres des ventes de ce type qui se sont tenues et elles se tiennent sur le territoire français. Et Madame Filippetti n'avait pas autant agité les bras à ce moment-là. Donc bon, c'est toujours une vente d'annuler. C'est
oui, ça évite que des nostalgiques du Troisième Reich collectionnent leurs
objets. Ouais. Voilà. Puis en plus, les maisons de vente, elles font toujours rigoler parce qu'elles vous expliquent tout gentiment que ah bah oui, ils savent pas hein, qui c'est qu'ils achètent autant. Ça peut être quelqu'un de fanatique. Bah ouais.
Ils ont qu'à donner à des musées comme voilà. Ça, il y aura pas de problème. Parce qu'ils savent très bien. Enfin, pour acheter, je sais pas, le passeport de Göring ou un truc comme ça, je me rappelle plus ce qu'il y avait en vente. Il faut être un néo-nazi. Hein, faut pas être un grand démocrate.
Ouais, par exemple, tu pouvais acheter.
Un antifa, hein.
Attends, écoute, tu pouvais quand même acheter un apron avec une croix gammée dessus.
Super.
Tu vois, là, c'est quand même des trucs assez particuliers. Je veux dire, oui, effectivement, il faut être un sacré facho pour avoir envie d'avoir ça chez soi.
Exactement.
Parce que le napperon n'a rien d'historique, hein, en l'occurrence.
Non. Une petite page environnementale.
La révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette.
Radio Canine, la rebelle.
Alors, je vais commencer par cette bonne nouvelle, bonne nouvelle, entre guillemets. Hein. C'est un homme qui souffre d'électrosensibilité, vous savez, c'est ces gens qui sont sensibles aux ondes hertziennes, alors pas les ondes radio telles qu'émet Radio Canu, hein, qui, jusqu'à preuve du contraire, ont jamais déclenché de problèmes chez les êtres humains, mais celles qui sont liées au portable, hein, c'est pas du tout les mêmes fréquences, les mêmes ampleurs, les mêmes volumes, les mêmes ondes. Donc cet homme qui souffre donc de cette électrosensibilité s'est vu accorder une aide financière pour sa pathologie par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Alors c'est un premier pas, c'est Sophie Pelletier qui est co-responsable du collectif des électrosensibles de France qui le dit, elle est contente parce que pour elle, alors c'est pas la première fois qu'un travailleur est reconnu handicapé à cause de cette électrosensibilité, c'est la première fois qu'il touche une somme pour ce handicap. Donc voilà, alors c'est un homme de 32 ans qui vit dans l'Essonne et qui supporte plus les ondes, qui est donc en arrêt maladie. Alors l'origine est floue, il a travaillé dans une entreprise où il y avait pas mal de champs magnétiques, peut-être que c'est ça qui est à l'origine du déclenchement. Grosso modo, on sait pas bien pour une grosse raison, c'est que même s'il y a quand même des études et quelques chercheurs qui bossent, il y a assez peu d'études scientifiques. Il faut dire que ceux qui émettent les ondes n'ont jamais fait quasiment aucune étude sérieuse publiée dans des magazines sérieux, c'est-à-dire à comité de lecture, etc., pour démontrer l'innocuité de ces ondes. Or, il y a quand même des études qui émettent des doutes hein, sur ces ondes. On se rappelle il y a quelques années, notamment quand elles sont très très élevées. Hein, on sait qu'il y a un problème plus en France que dans d'autres pays. En France, où la loi elle autorise des antennes très puissantes, et il y a des pays qui ont préféré protéger la santé de leurs citoyens en limitant la puissance des antennes, et ce qui oblige les opérateurs à mettre plein d'antennes. Mais plein d'antennes de basse puissance, c'est beaucoup moins dangereux, puisqu'on n'est jamais confronté à une haute puissance de ces ondes. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la France, puisque a priori, les gouvernements français qui se succèdent sont toujours très proches du patronat des télécommunications. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Il faudrait qu'un jour il y ait vraiment des choses qui se mettent en place sur l'électrosensibilité et qu'on arrête aussi peut-être de développer tout par les ondes. Le filaire est beaucoup plus intéressant au niveau de santé publique. Notamment là, on a les premières études qui sont négatives sur la 4G qui arrive, puisque les niveaux de puissance sont plus élevés et a priori l'impact serait plus important encore sur le cerveau et donc les personnes qui sont naturellement ou artificiellement artificiellement suite à un accident électrosensible, elles vont souffrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le gars là qui touche de l'argent, il va faire quoi? Il est obligé de s'acheter des vêtements spéciaux là qui limitent l'accès, qui empêchent les ondes de passer, notamment des rideaux chez lui aussi. Son lit, il est entouré de, c'est un lit à baldaquin, entouré de tissus qui sont reliés à la terre, qui conduisent, qui sont reliés à la terre pour ce qui s'appelle une cage de Faraday du coup. Enfin voilà, c'est une vie impossible. On ferait mieux de limiter les ondes pour pas rendre les gens malades. Ce serait peut-être plus logique, mais a priori, vu l'ampleur de l'impact du téléphone portable et de ces autres choses sur les gens, ça paraît difficile aujourd'hui.
Alors on va parler de Sea Shepherd et je vais vous en parler un peu longuement ce soir si vous voulez bien. Pour le premier communiqué, il va être très court celui-ci, ça s'appelle « Dernière chasse baleinière en Antarctique, les chiffres officiels sont tombés, 784 baleines sauvées cette année, voilà du concret. Les chiffres officiels livrés par le Japon viennent de tomber et correspondent à nos prévisions. Sea Shepherd a pu sauver 784 baleines lors de l'opération, 251 baleines hélas tuées sur l'objectif de 1035 individus. Comme son habitude, le Japon accuse Sea Shepherd, c'est pourquoi nous plaidons fièrement coupables. Les baleiniers japonais ont souvent dû fuir l'organisation et n'ont donc pas pu se livrer à leurs activités de recherche. Chasse baleinière, mais entre parenthèses, Sea Shepherd affirme l'officiel de l'agence de pêche. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, ce résultat est aussi le vôtre. Voilà, ça c'était donc pour célébrer la fin de cette campagne. Sea Shepherd, ils sont plutôt content, même si évidemment ils sont pas contents que 251 baleines aient malgré tout été tuées. Mais ce soir j'ai envie de vous parler d'un long article qui est paru sur le site français le mardi 8 avril dernier qui s'appelle « Tous unis pour les baleines, chiche ». Alors c'est un peu un pavé dans la mare. Si vous y connaissez en typographie, j'ai imprimé ça en Cambria 11, j'en ai 4 pages. C'est un truc assez impressionnant et je vais vraiment vous lire, parce que je trouve que c'est une analyse assez intéressante. Le pavé dans la mare, ils l'ont jeté. Allons-y. La récente victoire obtenue pour les baleines à la Cour internationale de La Haye a mis en exergue un problème de fond relativement tabou. Le parasitisme entre associations. C'est un sujet délicat à aborder, car la règle en vigueur est celle de l'omerta. Au nom de la nécessité d'entretenir l'apparence des rapports cordiaux entre associations partageant les mêmes objectifs, les coups bas doivent être passés sous silence et les critiques publiques n'ont pas lieu d'être, prétendument dans l'intérêt de la cause. Mais ce principe est toujours à l'avantage du plus fort et du plus connu. Et il est en fait la pire gangrène du mouvement associatif. Nous sommes partisans de mettre les pieds dans le plat et d'exposer ces pratiques afin d'y mettre un terme dans l'intérêt même de la cause. En effet, suite à la récente décision de la Cour de La Haye contre l'industrie baleinière japonaise, certaines associations affirmant défendre activement les baleines se sont empressées de récupérer à leur compte la victoire et en ont profité pour faire des appels aux dons, invitant les gens à leur envoyer de l'argent afin de continuer sur leur lancée et obtenir d'autres belles victoires comme celle-ci. Greenpeace USA a été jusqu'à affirmer que Greenpeace est pleinement affairé à sauver les baleines de la chasse commerciale, tout en relayant d'anciennes photos datant des années 70 ou de l'époque où Greenpeace envoyait encore des navires en Atlantique, au moins pour faire acte de présence et communiquer ensuite pour lever des fonds. Quiconque suit un tant soit peu Greenpeace de l'intérieur, sait très bien que les baleines ne font plus partie depuis longtemps des priorités de Greenpeace en termes de campagne. Le problème étant qu'elles le restent en tant qu'outil de collecte de fonds. Voilà le début de l'article.
Et ils sont énervés. Quand Greenpeace.
Oui. Je continue. Plus loin. En 2012, la flotte de Sea Shepherd bataillait seule contre la flotte baleinière japonaise dans le sanctuaire antarctique. Au même moment, le Rainbow Warriors 3 faisait un tour promotionnel en Nouvelle-Zélande à quelques jours à peine de navigation du sanctuaire où les harpons explosifs traquaient activement les baleines. Comme tous les ans, il nous manquait un navire pour suivre à la trace un des harponneurs. Le capitaine Watson a alors fait appel à Greenpeace pour la énième fois, ce à quoi il lui a été répondu qu'il n'était pas dans les plans du Rainbow Warrior 3 de se rendre en Antarctique et que le navire n'était de toute façon pas conçu pour naviguer à travers les glaces. Voilà donc le dernier bijou de la flotte greenpeacienne, le successeur du Rainbow Warrior courlé par les services français, les services secrets français, un navire qui a coûté plus de 30 millions d'euros et autour duquel Greenpeace entretient la légende. Voilà un navire qui n'a pas été conçu pour naviguer dans la glace et qui dès lors est dans l'incapacité prograde de défendre les baleines, là où elles ont besoin de l'être. Est-ce pour autant clair dans la communication de Greenpeace? Loin s'en faut, la communication de Greenpeace reste « Greenpeace est pleinement affairé à mettre un terme à toute chasse commerciale ». Je vais poursuivre un petit peu plus loin. Greenpeace affirme mener campagne auprès du public japonais pour la sauvegarde des baleines. Mais de quelle campagne s'agit-il ? L'objectif est-il de convaincre les 98% de Japonais qui ne mangent pas de baleines de continuer à pas en manger ? Il y a 3 ans, la campagne baleine de Greenpeace a consisté à envoyer des milliers d'origamis de baleines au président Obama, le président d'un pays qui ne chasse pas les baleines et qui vote déjà contre la levée du moratoire. Hormis les différences de méthode qui sont les nôtres, différences qui dérangent bien plus Greenpeace que Sea Shepherd, puisque nous n'avons eu de cesse de proposer d'unir nos forces pour chaque fois nous heurter à un refus, il s'agit d'être honnête dans ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, ou de ce que l'on ne fait plus. Que Greenpeace et les autres communiquent exclusivement et clairement sur ce qu'ils font et uniquement là-dessus. Ceux qui, en leur âme et conscience, pensent que les baleines en papier envoyées à Obama peuvent contribuer à sauver les baleines ont raison de soutenir Greenpeace dans leur campagne baleine. Ceux qui pensent que la protestation est la limite à ne pas dépasser, ceux qui, comme Greenpeace, pensent que ce n'est pas aux organisations écologistes de remplir le vide laissé par la police en mer, et qui, comme Greenpeace, considèrent les méthodes de Sea Shepherd trop violentes, ceux-là ont bien raison de soutenir Greenpeace. Dès lors que la communication est claire et honnête, on peut tout envisager et on peut effectivement dire « il y a de la place pour tout le monde ». Pour être tout à fait juste, on notera que toutes les antennes nationales de Greenpeace la seule qui ait au moins mentionné le nom de Sea Shepherd, sans pour autant faire référence aux actions menées, est Greenpeace France. Alors là, je vais faire juste un petit break. Il rend un petit hommage au nouveau directeur général de Greenpeace France, qui s'appelle Jean-François Julliard, puisque c'est le seul qui a proposé, quand il arrivait à un rendez-vous à Sea Shepherd, en tout cas de les rencontrer au niveau français. Mais ils s'en prennent à François Chartier, directeur de campagne Océan de Greenpeace France. Alors, il faut dire que François Chartier a décrit Paul Watson comme un justicier végétalien. Il a juste envie de cartonner tous les pêcheurs. Les éco-warriors, eux, s'inscrivent dans la mouvance anarchiste. La destruction pour la destruction, visage cagoulé avec utilisation d'armes et de bombes. Ils se prennent pour des justiciers et de temps en temps, ils dérapent clairement avec des gens qui peuvent tuer. Leur action dessert la cause de l'écologie.
Bon, bah nous, on est des éco-warriors anarchistes, alors.
Voilà, donc vous aurez compris, François Chartier n'aime pas beaucoup Sea Shepherd. Je vais conclure par le dernier paragraphe. Je vous ai vraiment pas tout lu, hein. C'est très très long, le dernier paragraphe de ce communiqué de Sea Shepherd. Mais chacun doit garder à l'esprit que les associations, quelles qu'elles soient, ne sont que des moyens, des outils qui doivent servir à une fin. La collecte de fonds et la médiatisation sont des moyens pour les associations de servir une cause qui les transcende, non de se servir elles-mêmes. Le jour où cet état de fait sera devenu une règle d'or dans le milieu associatif, particulièrement parmi les plus grosses associations, nous aurons peut-être une chance de parvenir à nos fins, tous ensemble. Moi, je trouve que c'est un très bon communiqué. Certes, il tape sur Greenpeace très énervé, mais c'est un problème de fond qu'on rencontre effectivement dans le milieu associatif, c'est qu'il y a beaucoup de tabous. Il faudrait surtout pas dire que l'autre fait des saloperies ou se comporte mal.
Oui, bon, oui.
Voilà, ou qu'il y a des divergences.
Alors que Greenpeace, depuis très longtemps, fait beaucoup plus de lobbying que d'autres choses, même si, sur le nucléaire, par exemple, ils ont fait des actions de rentrer dans les centrales nucléaires françaises, etc.
Que nous, on trouve très important, très exceptionnel aussi.
Mais hein. C'est vrai que sur plein de choses, ils font essentiellement du lobbying à Bruxelles ou auprès des politiques, et que, voilà, à un moment, il faut prendre un bateau et empêcher les Japonais d'aller tuer les baleines. Et aujourd'hui, effectivement, seul Sea Shepherd fait ça.
Et surtout, ils leur reprochent de tenter de récupérer victoire qu'ils ont menée, surtout la victoire, surtout une lutte et une bataille pour eux-mêmes, et essayer de rafler un peu du pognon. Et c'est ça qui pointe, et en particulier sur Greenpeace USA, qui est une espèce de bande d'escrocs, qui est pointée par d'autres organisations, hein, d'ailleurs écolo.
Voilà, vous pouvez soutenir Sea Shepherd en allant sur leur site internet. Et puis,
ils ont des jolis t-shirts, vous verrez.
Exactement, des très belles vestes. J'en ai une sur moi, c'est pour ça que je dis ça.
Sur ce texte, Eco Warriors, nous allons vous souhaiter une bonne soirée.
Le prochain Canu Info aura lieu demain à 19h. C'est tous les jours de la semaine, les Canu Info, 19h-20h. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet en streaming quand ça marche. En ce moment, ça galère un petit peu, mais d'ici quelques semaines, une version Linux du streaming ubuntuienne devrait résoudre les problèmes qui sont liés à un système d'exploitation ONI. Qu'on appelle Windows, et aussi sur les blogs, sur le serveur de Radio Canu, le blog de Canu Info, le podcast est disponible quelques minutes, quelques secondes, quelques microsecondes après le Canu Info.
C'est fou la technologie, vous pouvez baladodiffuser.
Allez,
à bientôt, ciao à tous et à toutes.